si quand les cadeaux, bah, on fait à une heure précise.
Je sais qu'il faut attendre tous les adultes. Et du coup, quand on dit top chrono, et bah, c'est toujours moi qui commence
non,
en premier
moi.
À déballer les cadeaux.
Désolée, c'est toujours moi. Parfois, je suis pressée de l'ouvrir parce que c'est un gros cadeau et tout. Mm-hmm. Ou parfois, c'est un petit cadeau, du coup, bah, je suis pas très pressée.
Moi, ça me dit soit petit, petit, petit.
Gros, ça donne plus envie de l'ouvrir tout de suite.
Alors, moi, il y a un cadeau que j'ai bien aimé. C'était l'année dernière un cartable parce que je l'attendais depuis longtemps.
C'est plus les cadeaux des grands-parents. Genre les vieilles écharpes avec une rangée de petits boutons dorés. Ou t'es en mode merci mamie. Et le pire c'est que quand j'étais petite, mes parents m'obligeaient toujours à porter le lendemain pour le repas familial. Et c'est pas mes meilleurs souvenirs quoi.
Moi c'est qu'en fait c'est mon anniversaire.
Ah bon?
Le 30 décembre.
Décembre il fait froid, il fait moche, ouais. Le seul truc un peu positif de décembre c'est Noël, ouais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien sûr, il y a les listes, celles qui sont soigneusement rédigées à la main ou celles qui sont faites à partir de découpages dans les magazines de jouets ou même celles qui sont envoyées par courriel. Si les habitudes varient au sein des familles qui fêtent Noël, la liste est sans doute un incontournable. Mais ça n'empêche pas de sortir un peu du cadre, non d'une pipe en bois, et d'offrir aux enfants des surprises surprenantes. D'accord, mais lesquels? Eh ben, nous sommes là pour vous aider. À 2 semaines du jour J, chers parents, grands-parents, chers oncles, tantes ou amis, dans l'heure qui vient, avec 3 invités triés sur le volet, nous allons vous proposer des idées de cadeaux pour les enfants et les ados. Des livres, bien sûr, des bouquins pour les petits, les moyens, les grands, mais aussi des cadeaux à fabriquer soi-même. Allez, même pas peur. Des cadeaux dématérialisés aussi, des bons pour, des concerts, des ateliers. Vous l'avez compris, on va tenter d'éviter les jouets en plastique venus de loin, tant qu'à faire. Mais promis, promis, l'enfant ne sera pas déçu. Pour les réclamations, envoyez un mail au Père Noël qui transmettra. Au programme également, les conseils de lecture de Denis Chessou. Ce sera « L'as-tu lu, mon petit loup ?» autour de 15h50. C'est parti, une plongée dans la hotte de Barbatruc.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Émission réalisée par Christophe Humbert avec Florent Layani à la technique, préparée par Mao de Butler et Margot Page. Et les voici, nos 3 invités, nommés pour l'occasion assistants du Père Noël. Bonjour Delphine Solière.
Bonjour.
Vous êtes la patronne d'Astrapi, de Pomme d'Api et de J'aime lire, directrice des magazines pour les moins de 12 ans chez Bayard Jeunesse, qui est le partenaire de Barbatruc. Offrir un abonnement, évidemment, c'est une bonne première idée pour les cadeaux de Noël. Ça va sans dire.
Ça va, comme tous les cadeaux dont on peut se rappeler tout au long de l'année.
Alors, vous avez préparé une petite liste d'idées cadeaux qu'on va détailler au cours de cette émission. On y trouve notamment une table sur laquelle on a le droit de colorier. C'est délicieusement transgressif. Mais aussi des ateliers. Vous êtes férue de do-it-yourself, Delphine Solière. De la pâtisserie, de la poterie, atelier fabrication de savon et j'en passe. On y revient dans un instant. Bonjour Sylvain Pathieux.
Bonjour.
Je suis honorée de recevoir le nouveau Vendredi. Vous êtes lauréat du prix Vendredi, qu'on présente souvent comme le prix Goncourt de la littérature pour adolescents. Amour Chrome, c'est le titre du roman qui a été couronné, publié à l'École des loisirs. C'est le premier tome d'une série de 4 romans. Le 2e est disponible aussi. Terrain frère, et le 3e est attendu pour
septembre 2022. Voilà. Donc il faut que je travaille là.
Dès qu'on sort de studio, on s'y remet.
Voilà.
Et vous aussi, vous avez des idées de cadeaux à nous souffler. Bonjour Agnès Mathieu Daudet.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes conservatrice du patrimoine et aussi écrivaine. Votre dernier roman pour ados met en scène un animal aux grandes oreilles qui mène des enquêtes. Il s'appelle Arsène. C'est un Arsène lapin.
Oui,
voilà. Londinium, c'est le titre de ce roman à l'école des loisirs à partir de 13 ans. Premier tome d'une trilogie, là aussi.
Au moins, non, oui.
Au moins,
oui,
vous savez pas
c'est
encore.
C'est très ambitieux, non. Je suis en train d'écrire le 3e, mais je vais me mettre au travail, moi aussi, quand j'aurai terminé, après Noël.
Conservatrice du patrimoine, donc vous conservez. Est-ce que vous conservez aussi toujours des idées de cadeaux dans un coin de la tête?
Oui, alors depuis qu'on a réfléchi à l'émission, j'avoue que ma vie a changé. Voilà, je réfléchis différemment à tout, et surtout quand on parle de Noël, je pense que j'ai l'âme d'un enfant de 3 ans à peu près, pendant un mois, donc je me suis vraiment mis dans
vous savez que les
dans
gens,
la peau du personnage.
Les gens vraiment bien organisés commencent à y réfléchir en janvier, à noter des trucs dans leurs notes de téléphone.
Les gens bien organisés n'écrivent pas des romans en général. Donc ça
les gens mal organisés finissent en janvier aussi.
Puis heureusement, comme ça, il y a les auditeurs de France Inter qui peuvent
prendre des notes. Alors, vous serez, je l'espère, d'accord avec moi, tous les trois, pour dire que l'humanité se divise en deux catégories. Il y a ceux qui savent faire de jolis paquets cadeaux et les autres. Dans quel camp êtes-vous, tous les trois, Delphine Solière?
Alors moi, je fais des très très jolis paquets cadeaux qui sont déchirés en un quart de seconde. Et donc, c'est absolument désespérant. Et voilà, donc je fais partie quand même, je continue de manière militante. J'ai même fait les fureaux Kishi, je crois, ça s'appelle comme ça, en tissu japonais.
Très bonne idée d'emballage durable qu'on peut réutiliser.
Après, personne n'a rien fait de mes tissus, donc ça a terminé... dans la malle à déguisement.
Sylvain Pathieu, emballeur, bon alors, emballeur de
moi
cadeaux.
Moi, j'ai une spécialité, c'est de faire des paquets cadeaux avec des vieux numéros de l'équipe.
Ah, donc ça, comme ça, on voit les titres.
Voilà, mais c'est pas du goût de tout le monde. Mais sinon, je prends du papier craft et je fais dessiner mes enfants dessus et ça fait des très beaux paquets cadeaux aussi.
Et vous, beau paquet, Agnès Mathieu Daudet?
J'ai gagné une fois un concours de papier cadeau dans une librairie, mais c'était facile, j'emballais que des livres du matin au soir. Et comme je n'offre pas que des livres, tout le reste, c'était une catastrophe. Et puis j'ai un lapin en plus, hein, donc j'ai un lapin qui vient quand je fais les cadeaux manger les papiers, mais etc. Non. Donc c'est personnalisé chez moi aussi.
Et votre lapin s'appelle Arsène?
Oui.
Oui, c'est vrai.
C'est une info exclusive pour les auditeurs.
Donc Arsène le lapin,
oui,
le héros de votre roman,
hommage, c'est un hommage. Animal qui a ruiné tant de paquets cadeaux et de sapins.
Allez, on plonge dans notre liste de cadeaux dans un instant. C'est Barbatruc jusqu'à 16h. C'était Fishback sur France Inter. Des idées de cadeaux pour emballer les enfants et les ados. Voilà le plan de Barbatruc cette semaine avec Agnès Mathieu Daudet et Sylvain Pathieu qui écrivent des romans pour les ados notamment et avec Delphine Solière, rédactrice en chef d'Astrapi et de J'aime lire.
Quand vous étiez plus petite, vous aviez l'impression que la taille du cadeau comptait. C'est-à-dire qu'un gros cadeau valait mieux qu'un petit cadeau.
Ouais, en vrai, quand j'étais genre en primaire, quoi, quand j'avais genre 8 ans, oui, parce que souvent c'était genre, je sais pas, des poupées ou je sais pas, genre des maisons Playmobil,
ouais,
des trucs comme ça.
Plus gros.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Si tu voyais des gros cadeaux, t'étais content tout de suite.
C'était bon signe.
Ouais.
Les gros cadeaux. Moi, ça compte qu'ils soient petits.
Bah, gros, c'est plus. Ça donne plus envie de l'ouvrir tout de suite. Mais petit, c'est bien aussi.
Bah, quand tu vois le.
Le paquet, s'il est gros, t'as l'impression que tu vas être content, mais ça dépend ce qu'il y a dedans.
Non, vraiment, la taille, ça compte pas du tout.
Moi, je préfère les cadeaux. Je préfère les cadeaux parce que je me dis que la personne a pris le temps d'aller l'acheter, tout ça.
Les cadeaux, les objets.
Oui, voilà, les trucs physiques. Après, par exemple, si mon grand-père me donne de l'argent et ce qu'il fait régulièrement, c'est parce qu'il préfère me donner directement de l'argent et que je l'utilise comme je veux plutôt que de m'offrir un cadeau que je vais pas aimer et qui va rester...
Sans ça, j'avais des places pour Disneyland, j'étais trop contente.
Ah oui, non, ça, oui mais ça pour moi c'est un cadeau physique quand même. Parce que un spectacle, c'est, oui, ça, pour moi c'est un cadeau. C'est cool. Ça, moi j'adore recevoir des billets pour des spectacles et tout, des trucs de concert.
Ouais, non, c'est pas grave.
Petite aussi, c'était pas.
Si petite, ça m'aurait peut-être plus dérangé parce que t'as envie de jouer avec. Genre même maintenant, le 25 midi, c'est à tous les enfants et on est tous en train de monter le Lego, le truc.
T'avais reçu un spectacle déjà ?
Oui, Mary Poppins.
Et t'avais bien aimé ?
Oui, j'avais bien aimé. C'était à la Philharmonie de Paris.
Ouais, moi, ça me plaît. Moi. Par exemple, un voyage.
Vous préférez quand c'est un objet ou pas ?
Bah oui, quand même. Je préfère quand c'est un objet parce qu'on peut s'amuser avec. Et je veux pas qu'on en ait trop et que notre chambre soit remplie de cadeaux. Sinon, on pourrait même pas dormir.
Est-ce que ça change quelque chose si le cadeau, en fait, c'est par exemple des places pour aller quelque part ou c'est pour faire quelque chose ou si c'est dans une enveloppe, par exemple, si c'est pas un objet, si c'est pas un jouet, est-ce que ça peut quand même être bien ou est-ce que c'est moins bien ?
Oui, comme exemple, un billet de 10 ou de 5 ou de 20 et tu t'achètes ton cadeau que tu voulais.
Et ben voilà, hein, qui a tout compris. Propos recueillis par notre reporter Juliette Proutot. Des cadeaux immatériels donc, pas d'objets concrets au pied du sapin. Est-ce une bonne idée d'après vous, Delphine Solière ?
Ce qui est intéressant dans le cadeau immatériel, c'est qu'on va offrir du temps à l'enfant. On va lui offrir quelque chose qui va différer, qui sera fait un peu plus tard et qui sera peut-être fait avec celui qui l'a donné. Donc c'est aussi un temps avec et je trouve que ça peut être un chouette cadeau.
De plus en plus d'artisans partout en France proposent des ateliers pour explorer leur savoir-faire pendant une heure ou même quelques heures. Je vous recommande la plateforme We Can Do, ça s'écrit avec deux O à la fin, qui répertorie les activités manuelles proposées par des artisans. Il y en a dans toutes les villes de France. On peut, par exemple, composer son terrarium, fabriquer des chocolats, fabriquer du savon. On peut s'initier à la poterie en famille, au tour de potier. J'ai même repéré un artisan verrier en Haute-Garonne qui propose aux enfants de fabriquer leurs propres billes, leurs billes en verre. On façonne le verre au chalumeau et on repart avec des pièces uniques, énorme valeur sentimentale. Et là, on peut mettre une enveloppe au pied du sapin, même si c'est moins gros. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès Mathieu Daudet ?
J'étais en train d'écouter les billes en verre, je trouve ça absolument génial.
Bonne idée, hein ?
Oui, moi j'ai fait des ateliers à deux. C'est vrai que j'ai passé du temps que j'aurais pas consacré. D'abord, moi, la poterie, c'était pas trop mon truc. Enfin, ça ne l'était pas. Je me suis régalée et on a passé 3 heures ensemble à faire quelque chose. On y est retourné. Enfin, et j'ai trouvé ça, évidemment, ce qui était précieux, c'était le temps consacré.
Voilà. Ça nécessite de passer un peu de temps à expliquer le cadeau au moment où il est ouvert et au moment où éventuellement l'enfant ou l'adolescent est un peu déçu.
Et ça implique aussi de choisir quelque chose qu'on peut faire à deux, qu'on peut aimer et de trouver où on peut rejoindre les goûts de l'enfant, ce qui n'est pas toujours évident quand l'enfant grandit.
Toujours sur We Can Do, j'ai repéré un atelier pour fabriquer un skateboard ou pour imprimer son propre tote bag. Les grandes enseignes de bricolage Delphine Solière organisent aussi des ateliers, il faut le préciser.
Ah oui, ça c'est génial. C'est vraiment moi qui suis une bille en mécanique, en fabrication. Autant je peux faire la couture, du crochet, ce que vous voulez, mais ça je ne savais pas. Et je ne savais pas quoi offrir à un de mes enfants, à une fille, qui voulait absolument être une championne en bricolage. Et on est allé faire un stage dans une grande surface. Et c'était de bricolage, c'était hyper marrant. Hein. Puis c'est vraiment des professionnels qui vous apprennent les petits trucs, même des questions d'équilibre, de mesure, enfin, c'est des trucs qui servent en fait dans la vie de tous les jours. Et on se sent moins bête finalement quand on sort de ça.
Et dans ce cas-là, il y a un cadeau matériel à mettre au pied du sapin, un marteau, un tournevis, tout simplement.
Voilà.
Autre idée de cadeau immatériel, Sylvain Patiot, vous nous recommandez d'offrir aux enfants une place de spectacle, une compagnie en particulier, compagnie d'acrobates qui s'appelle Barreau d'Evel. Vous nous les présentez ?
Alors, c'est des acrobates, ils viennent du cirque, mais ils sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils font des acrobaties, ils font de la danse, il y a du chant aussi, des instruments, et puis il y a souvent des animaux sur scène qui sont bien,
notamment.
Voilà, un cheval, un corbeau, ça c'est extraordinaire avec le corbeau, qui sont bien traités, hein, je le précise. Il y a un spectacle avec un chien aussi. Il y a aussi de la matière, en fait, il y a à la fois de la matière et du mouvement, c'est-à-dire que souvent, ils produisent des choses pendant le spectacle. Ils dessinent des choses sur une toile, ils cassent des murs, ils rentrent à l'intérieur de murs, il y a beaucoup de plâtre, de fumée, de choses assez étranges. À un moment donné, ils font tournoyer un micro qui cogne contre les murs et ça fait des dessins sur les murs. Donc c'est assez impressionnant, c'est très poétique. Et ils ont trois spectacles, donc Mazout, Là et Falaise, qui sont tous les trois, j'ai vu les trois, ils sont très bien tous les trois. Et ce qui est vraiment intéressant avec eux, c'est qu'ils jouent vraiment sur cette sorte de foisonnement, ce croisement entre la matière, le mouvement, et on a l'impression en fait d'assister à la recherche artistique en même temps qu'ils la font, quoi.
Et alors, c'est expérimental.
C'est assez expérimental, mais les enfants s'ennuient pas parce que c'est pas des spectacles qui sont très longs. Et bon, moi j'ai testé avec les miens et ils ont vraiment bien aimé. Ils ont beaucoup.
Quel âge?
Alors ils ont 6 et 9. Et ils ont beaucoup de questions après. Alors aussi pendant, donc des fois on leur dit chut pendant le spectacle, mais après ils ont beaucoup de questions sur pourquoi il a fait ça, pourquoi la dame elle a fait ça, pourquoi. Et voilà, c'est vraiment beau, c'est un peu absurde par certains côtés.
Drôle souvent.
Drôle aussi, ouais. On rigole bien. Et alors, je conseille aussi ce spectacle parce qu'il va être en tournée un peu partout en France. Donc, il va être à Paris, au Bouffe du Nord, mais il va être aussi à Douai, à Saint-Quentin en Yvelines, à Tarbes, à Maubeuge, à Lille, à Nantes, à Toulouse. Vous pouvez regarder sur le site, il y a tout qui est indiqué.
On va vous donner très envie d'aller voir cette compagnie qui s'appelle Barreau d'Evel.
Ouais,
et on mettra évidemment un lien à la page de Barbatruc sur le site de France Inter pour retrouver toutes les infos. On poursuit cette liste de cadeaux dans un instant. J'ai deux expos à vous conseiller, deux expositions à visiter avec vos enfants. L'une à Moulins, l'autre à Paris. Honneur d'abord à Mario Ramos, le musée de l'illustration jeunesse qui est à Moulins, dans l'Allier, consacre à partir d'aujourd'hui une exposition à Mario Ramos, auteur et illustrateur jeunesse de génie, disparu en 2012, à qui on doit des albums irrésistibles, C'est moi le plus fort et C'est moi le plus beau en tête, des livres qui mettent en scène un loup très arrogant qui finit toujours par être un peu ridicule. Mario Ramos, son humour tendre et irrévérencieux sont à Moulins jusqu'en juin 2022, ça laisse le temps. L'expo s'appelle Le plus fort, le plus beau, le plus malin. Et puis pour ceux et celles qui passent par Paris dans les jours qui viennent, je recommande vivement l'expo Small is Beautiful, à voir à la Galerie Joseph dans le 3e arrondissement de la capitale. C'est un focus sur l'art miniature, avec des œuvres d'art minuscules, donc des maquettes de châteaux, des immeubles, des villes, le tout souvent regardé à la loupe, avec un sens du détail époustouflant. Des loupes évidemment sont fournies par la galerie. Moi j'ai été absolument bluffée par les sculptures dans des mines de crayons. Ce sont des statues, voilà, qui ont été creusées dans la mine d'un crayon de couleur. Les enfants, en général, ont le souffle coupé. C'est plein de poésie et c'est très beau. Et ça donnera sans doute à vos enfants l'envie de s'y mettre à leur tour à l'art miniature. Small is Beautiful Galerie, pardon pour l'accent, hein, Small is Beautiful Galerie Joseph à Paris. C'est jusqu'au 15 janvier 2022. Pensez à réserver.
Barbatruc sur France Inter avec Dorothée Barba.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. All I want for Christmas.
Merci pour ce cadeau, Jean-Baptiste Audibert, programmateur musical de Barbatruc. C'était Maria Carré sur France Inter. Qui d'autre? Trois invités à mes côtés cette semaine. Delphine Solière, directrice des magazines J'aime lire, Astrapi et j'en passe, les moins de 12 ans chez Bayard Jeunesse. Sylvain Patieu, écrivain, lauréat du prix Vendredi, qui récompense la littérature pour ados. Et Agnès Mathieu, Daudet, écrivaine aussi. Nous dressons tous les quatre une liste subjective et non exhaustive de chouettes cadeaux à offrir à des enfants. Il ne s'agit surtout pas d'oublier les ados. Évidemment, vous ne le ferez pas vous-même, alors je recommande moi-même vos livres à tous les deux. Amour Chrome de Sylvain Patieu, que je recommande à partir de 13 ans, ça vous va ?
Oui, ça va.
Voilà. C'est une plongée dans la vie scolaire, amoureuse, familiale et amicale d'une poignée d'élèves de 3e en Seine-Saint-Denis. Le héros est un élève brillant, discret, il s'appelle Mohamed Ali et il a deux secrets. Le premier, la nuit, il s'échappe pour aller taguer sur les murs. Et le deuxième, il est amoureux d'une fille qui, elle, ne pense qu'au football. C'est écrit comme il parle. Votre écriture est traversée par une folle énergie. La langue orale de ces adolescents est résolument littéraire. Est-ce que votre ambition, c'était de magnifier cette langue orale ?
Bah en fait, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. J'habite depuis 5 ans, j'y travaille depuis 20 ans. Et c'est un département qui est souvent stigmatisé, qui est souvent caricaturé. Et moi, j'avais envie de plutôt mettre l'accent sur toute la richesse qu'il peut y avoir, parce que c'est un département très jeune, dans lequel il y a eu aussi une richesse de la langue. Hein, souvent dans les caricatures, on présente les jeunes des banlieues comme des gens qui savent pas parler, mais en fait, ils savent manier plusieurs niveaux de langage. Ils parlent pas pareil quand ils sont entre eux, quand ils sont avec leurs profs, avec leurs parents.
C'est flagrant dans votre roman.
Et moi, je pense qu'on peut faire de la littérature avec toutes les langues. Et avec la langue populaire, avec la langue... orale, qui est aussi une langue qui renouvelle la langue française.
Vous vous amusez beaucoup avec la ponctuation aussi, Sylvain Patieu.
Oui, alors au début surtout du livre, pour donner du rythme, parce que moi c'est ça qui m'intéresse aussi quand j'écris un livre, c'est de donner du rythme, de jouer avec la langue, de jouer avec les codes, même des fois avec les codes grammaticaux, je pense que c'est comme ça qu'on peut s'amuser. Et alors, ce qui est marrant, c'est que parfois les jeunes eux-mêmes sont un peu décontenancés quand ils voient mon livre.
Ils repèrent pas les erreurs de vocabulaire, non, ça
oui, c'est ça, ils disent mais enfin, il y a des gros mots, il y a des mots des chansons de rap et tout ça, pourquoi vous écrivez comme ça, quoi?
Et puis voilà, ça commence par une grosse bagarre entre deux filles.
Une bagarre de filles, voilà. J'ai moi-même observée quand j'étais
sous collégien. Les yeux ébahis de tout le collège.
Voilà, exactement. Donc c'est aussi l'idée d'avoir des personnages qui vont pas là où on attend qu'ils aillent, quoi. Qui eux-mêmes aiment aller dans des endroits où ils sont bien, mais où on les attend pas.
Et même quand on a un peu plus de 13 ans, c'est mon cas, on est happé par cette histoire. Amour Chrome, édition de l'École des loisirs, la suite s'appelle Terrain Frère. Et vous m'avez déjà fait un cadeau de Noël à moi, Sylvain Patieu, moi qui aime apprendre de nouveaux mots. Je ne connaissais pas le mot hypalage. L'hypalage, c'est une figure de style qui consiste à associer deux mots qui ne le sont pas d'habitude.
Voilà,
Amour,
exactement.
Chrome, voilà. Ouais. Et cette série de quatre romans s'appelle Hypalage.
Ben oui, alors ça vous rassure, moi non plus, je ne connaissais pas avant de faire la série. Et j'ai fait le titre qui s'appelle Amour Chrome, et mon éditrice qui s'appelle Maya Michelon m'a dit, mais tu as fait une Hypalage. Et donc on a décidé.
Monsieur Jourdain, qui fait des figures de style sans le savoir.
Exactement. Ben on a décidé que ça allait être, pour les quatre tomes de la série, ça allait être à chaque fois un titre avec une Hypalage.
À mettre au pied du sapin pour les ados également, Londinium d'Agnès Mathieu Daudet. C'est l'histoire d'un lapin qui sort de son terrier parce qu'il est avide de vérité. Un lapin qui s'appelle Arsène, hommage à Maurice Leblanc, évidemment, le créateur d'Arsène Lupin. Hommage aussi à Sherlock Holmes, me semble-t-il, et même au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a beaucoup de monde derrière votre lapin, Agnès Mathieu Daudet.
Oui, en faisant la liste des références, qu'on ne fait pas toujours a priori, mais a posteriori quand on en reparle, je pense que j'avais envie aussi, enfin c'est clair pour moi, de réfléchir à la place des animaux dans la littérature jeunesse, c'est-à-dire que cette évidence du petit animal habillé qui a un papa, une maman et qui va se coucher le soir en brossant les dents, il y a un âge à laquelle elle passe plus. Et j'avais envie de jouer avec ça, de dire voilà, dans ce monde qui s'appelle Londinium, qui est une uchronie en fait à partir du Londres des années 30, mais qui serait un peu décalé par rapport à notre univers à nous.
Où se mélangent les êtres humains et les animaux.
Voilà, les animaux ont été intégrés, ils ont des droits, ils sont protégés dans une certaine mesure. Et là, l'équilibre est en train de se rompre et ce lapin, lui, gagne sa vie en faisant des enquêtes. Il a lu Darwin et il veut évoluer. Lui, il estime que si les humains se sont mis sur deux pattes, il voit pas pourquoi les lapins n'y arriveraient pas. Il veut pouvoir... on comprend aussi pourquoi ce lapin veut devenir humain et peut-être aussi les limites de ce que ça veut dire devenir humain.
C'est un récit plein de méandres, de rebondissements. Il y a des aventures absolument folles et ça interroge au passage les mécanismes du rejet de l'autre, Agnès Mathieu Daudet.
Oui, je pense que l'idée de ce lapin qui veut devenir humain, c'est aussi de... Il y avait deux choses. Il y a à la fois la métamorphose qu'on peut traverser, je pense, à l'adolescence. Et c'est ce moment où on quitte quelque chose et on ne sait pas encore trop où on va. Et ce lapin quitte un état pour aller vers un autre en s'interrogeant tout le temps sur les nouveaux sentiments, les nouvelles émotions qu'il découvre. C'est pas facile de découvrir l'amitié, l'amour, il sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est aussi une phase, alors on est dans ces années 30, je voulais qu'il y ait un parallèle avec tout ce qui peut se passer aujourd'hui, et on commence à exclure l'autre, et donc ça se passe même au sein du règne animal. Certains animaux disent, mais pourquoi par exemple on continue à manger des crustacés? Pourquoi les loutres mangent des crustacés dans l'ondinium? Est-ce qu'on peut pas aussi défendre les crustacés? Enfin, il y a toute cette réflexion sur le vivant. J'apporte pas forcément de réponse, mais j'avais envie de soulever ces questions effectivement d'exclusion et d'inclusion. Il va falloir une résistance face à l'évolution des prédateurs et les proies vont s'unir. Alors ça, c'est des messages assez larges et assez... Et c'est pour ça aussi qu'il fallait que ce soit ancré dans un univers très particulier. Et j'en profite au passage pour signaler que j'avais beau connaître les hippalages, je serais incapable d'avoir la langue que Sylvain retranscrit. C'est même pas retranscrit, c'est écrit dans ses livres. Je pense que je fais pas du tout la même chose et je tiens à dire que voilà, c'est quand même extraordinaire. J'aime bien l'idée qu'il y ait des littératures, on s'adresse au même public, a priori, aux mêmes âges.
Ah, mais c'est deux
et
univers
on fait absolument
radicalement
pas la même
différents.
Chose. Et voilà, je trouve ça super de dire aussi pour vos ados à Noël, vu que le cadeau d'ado, c'est quand même notre épine dans le pied à tous. Voilà, il y a des voix qui existent.
Mettez les deux, il y en a bien un des deux qui va leur
ça
plaire.
Ça donne envie, en fait, de lire l'Ondinium, d'autant que moi, mes enfants sont fans d'Agnès Mathieu Daudet. Mais ils sont plus jeunes, mais elle a aussi écrit des livres pour les
oui,
plus jeunes.
Oui, aussi offrir mes livres pour les
et
plus
voilà,
jeunes.
Et donc, ils ont lu Dagfrid, c'est une série avec une petite fille viking qui est super. Et puis Vertical, Vert Génial. Comme nous, on a un jardin, ils aiment bien toucher les vers de terre et tout ça. Et c'est l'histoire d'un petit ver de terre. Et alors ça, ils ont
amoureux
beaucoup aimé
limace,
aussi. Quoi.
Tiens à dire.
Un lapin sous le dôme, c'est le premier tome de l'Ondinium. Agnès Mathieu Daudet à l'école des loisirs.
Barbatruc, Saint-Sainter, le samedi à 15h.
On reste en librairie, Delphine Solière. Vous nous conseillez, vous, d'offrir un livre que moi aussi je chéris et que j'offre à tour de bras et qui commence ainsi. À n'en pas douter, le prince de Mot-Tordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel le dimanche flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. La belle l'espoir du prince de Mot-Tordu de Pef. C'est un bijou de la littérature jeunesse disponible en poche chez Gallimard mais également dans une très belle édition, Les Trésors de Mot-Tordu.
Oui, le prince de Mot-Tordu a 40 ans, c'est quand même incroyable.
Il ne les fait pas du tout.
Il ne les fait pas du tout. J'ai relu avec un plaisir non dissimulé toutes ces histoires. Il y a une langue, il y a un imaginaire absolument fantastique. Et je trouve que c'est intéressant aussi au moment de Noël, d'être aussi un peu dans la transmission et de pouvoir offrir des choses qu'on a aimées quand on était enfant. Je l'ai rapporté chez moi et même mes ados, ils étaient sous la table de rire.
Il va faire paître son troupeau de boutons. Avec les boutons là. Il joue aux tartes, donc en gros, il s'envoie des tartes à la figure au lieu de jouer aux cartes.
Tous les mots, eh ben, il les confond. Donc, par exemple, il dit il vit dans un chapeau et pas dans un château.
Pour se faire comprendre, c'est limite quand même. Ce serait drôle parfois de jouer un peu à ça.
Voilà, c'est une invitation à en faire autant, à tripatouiller la langue, à essorer les mots, à jouer avec. Et c'est très pédagogique, hein, l'air de rien, Delphine Solière, le prince de Mot-Tordu.
C'est très pédagogique, c'est très structuré. Hein. Pef est quelqu'un qui venait de l'éducation populaire, donc il a vraiment un souci de raconter. Mais ça dit à quel point aussi la force de la mémoire, du langage oral est puissante.
Je signale que j'ai consacré une émission à ce chef-d'œuvre avec son auteur Pef et avec la linguiste Laëlia Véron, épisode de Barbatruc sur le prince de Mot-Tordu. Disponible bien sûr en podcast et en réécoute sur l'application France Inter. Il est grand temps d'écouter encore des enfants au micro de Juliette Proutot. Question incontournable, ton meilleur souvenir de cadeau?
Dorothée Barbe.
C'était le camion de la Pâte Patrouille.
Le camion de la Pâte Patrouille?
Oui.
Il ressemble
J'étais
à quoi?
Gros.
Moi je me rappelle. La reine de toupie, Blay Blay.
Moi, c'était mes rollers.
Des Lego Star Wars, des cartes Pokémon, une tablette de chocolat.
Et toi, tu veux quoi?
Une calculette russe, une calette... Une calette...
Une calculette?
Oui, une calette.
Une calculatrice?
Oui. Et une lunette, des cartes Pokémon, un téléphone pyjama, puis des bonbons... Une boîte de licorne, des pokéballs.
Moi, je veux savoir, c'était quoi le meilleur cadeau que vous avez eu?
C'est trop dur. Voilà. Ah, une map monde. Bah parce que quand même, on peut voir là où il y a des endroits, le nord, le sud, les océans, et aussi, et aussi, on peut savoir où sont les endroits, les pays.
Bah ma sœur, à son anniversaire, elle avait reçu des Barbies.
Et ça avait pas trop plu.
Pas du tout.
Très bonne idée, la map monde, Agnès Mathieu Daudet.
Oui, j'y ai pas pensé, j'en ai offert beaucoup, qui s'allument, enfin des globes lumineux, des cartes aussi murales pour mettre au-dessus du bureau quand ils sont plus grands, ça marche toujours.
Qu'est-ce que vous retenez dans ce qu'on vient d'entendre ?
Vous avez chopé une source d'enfants sérieux qui...
Mais non, c'est juste que le micro les rend
les
sérieux.
Les cartables et les map-monde.
Et les calculatrices.
Non mais c'est marrant parce qu'ils parlent pas du tout de trucs quand même qui fascinent aussi les enfants, qui sont les appareils électroniques, les switch, les trucs comme ça. Dans la série de Romane Béringer, L'amour flou, c'est marrant parce que c'est un gag récurrent où il y a son fils qui lui demande une switch. Et c'est vrai que...
Elle finit par craquer, mais son père aussi, parce qu'ils sont séparés. Résultat, il a deux Switch, le gamin.
Pour les ados, il y a un moment, il faut accepter de leur donner ce qu'ils demandent, parce que c'est, enfin, dans la mesure du possible, hein, parce que c'est pas toujours possible.
Donc de répondre à une commande.
Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un moment où on réponde à ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est être comme les autres, et ça, on n'y peut rien.
Alors ça, c'est vrai pour les ados, Agnès Mathieu Daudet, mais pour les plus petits, on peut aussi offrir ceci.
Ils sont toujours là.
Voilà, ça c'était le générique de l'adaptation en dessin animé dans les années 1990, je crois. Les Moomins, c'est un peu le babar finlandais. Il faut d'abord décrire cette créature, s'il vous plaît.
Merci de m'avoir
je vous
chargé de cette
le
mission.
Bébé.
Donc le Moomin, c'est un animal
blanc,
qui ressemble quand même beaucoup à un hippopotame.
En le tout papa cas, dans porte sa silhouette, un chapeau de forme.
Voilà, et un hippopotame qui est un petit peu anthropisé. Il porte quand même tout ce qu'il faut pour être reconnaissable. Alors, ce que j'aime dans les Moomins, c'est
canne,
que
je crois.
Voilà, le papa. Effectivement, on est dans les stéréotypes. Le papa a une canne, un haut de forme. Il part à la pêche. Il oublie absolument tout ce qu'il doit faire à la maison. Et la maman a un petit collier de perles, un sac à main, et elle court partout en étant très stressée. Mais une fois qu'on a dit ça, Tove Jansson, qui a créé les Moomins en Finlande, était quand même une féministe convaincue et convaincante. Et il y a aussi un personnage de jeune fille qui fait n'importe quoi et qui fait faire n'importe quoi à sa famille, qui est là, qui rêvasse et qui parfois part à l'aventure et qui entraîne derrière elle aussi tout ce petit monde. Il y a des personnages un peu comme des barbapapa ou des barbatrucs, ou des choses indéterminées dans lesquelles effectivement l'enfant et l'adolescent, parce que les Moomins, ça peut se lire à tout âge, c'est ça que j'aime aussi. On se reconnaît vraiment dans ces personnages informes, c'est le principe du personnage informe, c'est qu'on peut projeter tout ce qu'on veut. Et dans les Moomins, ce que j'aime, c'est que oui, ça fait rêver, ça se passe dans les forêts finlandaises, mais ils vont aussi sur la Côte d'Azur vivre la grande vie dans un palace en payant jamais la facture. Enfin, il y a des problématiques qui sont aussi celles des adultes.
Disponible en français aux édition Cambourakis, traduit par Catherine Renaud, Moomin et le dragon, Moomin et l'orchestre des mers, les Moomins et l'invité invisible, et puis l'incontournable de saison, Noël dans la vallée des Moomins. La stagiaire de 3e qui passe la semaine avec nous et qui s'appelle Louisa me faisait remarquer que l'autrice des Moomins, Tove Jansson, est dans Les culottés, la BD de Pénélope Bagieux. Un chapitre lui est consacré. On apprend dans Les culottés que Tove Jansson vivait dans une île déserte paradisiaque en Finlande, mais qu'elle a créé ses personnage en 1945. C'est aussi une manière d'échapper au chaos du monde par la rêverie.
Oui, et je crois que ça marche tout le temps, ça. Et aujourd'hui, on a besoin de cadeaux comme ça. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pensais à un livre auquel j'ai pas pensé avant, qui était Le sac à disparaître de Rosemary Wells, que j'ai adoré enfant et lire à des enfants. C'est encore une histoire de lapin, pardon, mais qui, le matin de Noël, voilà, lui, dans ses cadeaux, il n'a qu'un... Il voit pas très bien... Enfin, ses frères et sœurs ont des trucs extraordinaires. Et il va finir par trouver sous le sapin un paquet oublié qui a un sac à disparaître, qui est un peu l'ancêtre de la cape d'invisibilité du petit sorcier. Et ce sac, ils vont s'échanger les cadeaux toute la journée. Et j'aime bien aussi ça, cette idée qu'on voit les enfants en train de jouer avec des tas de choses. Et ce sac est un cadeau génial puisqu'on peut se cacher dedans. Et j'aime bien l'offrir quand on sait pas quoi. Enfin, on n'est pas sûr de son cadeau. On peut toujours offrir ce petit livre avec, puisque c'est un livre qui parle de la déception du cadeau, de pas avoir le bon cadeau et de ce qu'on peut faire pour
s'en tirer. C'est une très bonne idée ça. Quel que soit ce qu'on offre, au cas où on soit déçu, on offre ce cadeau qui raconte la déception du cadeau.
J'aime bien ça.
Génial. Moi, je rajoute dans notre hôte barbatruc donc les culottés de Pénélope Bagieux chez Gallimard, bande dessinée en deux tomes, des portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent.
Barbatruc.
Jinja bot gile wai Amin ya nangu Ni yenisa Yanga dantari Yau ya mangembu dembu Mama na don tai sambu Yau ya makhelal dembu Mama na don tai sagu
s'appelle Las, il est sénégalais et c'est une nouveauté de la playlist France Inter, Mero Pertoulo. Des idées de cadeaux pour les enfants et les ados dans Barbatruc cette semaine. Émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, Delphine Solière, directrice des magazines pour les moins de 12 ans chez Bayard et mon invité, ainsi qu'Agnès Mathieu Daudet, écrivaine jeunesse, et Sylvain Patieu, écrivain jeunesse. Alors je vous propose qu'on pioche dans notre hôte au hasard et en vrac. C'est une très grosse hôte parce qu'on y trouve une table, Delphine Solière, une table sur laquelle on peut colorier. De quoi s'agit-il ?
Ah, j'adore cette idée. Le fait que, justement, une table sur laquelle on peut faire beaucoup de choses, on peut manger, on peut travailler, mais aussi on peut s'amuser, on peut peindre, ça s'appelle la coloritable. Et c'est vraiment extrêmement ergonomique. Elle a des coins arrondis et on peut dessiner et d'un coup d'éponge effacer. Il y a des petits personnages qui sont en noir, mais c'est pas enfermant. Mmh. On peut inventer des tas d'histoires. Et c'est, vous voyez ici, là, sur la table sur laquelle nous sommes.
Dans le studio.
Il y a plein de petits dessins dans ce studio. Bah,
donc
voilà,
il y a beaucoup de dessinateurs qui défilent devant ce micro.
Exactement. ça veut dire qu'il y a un vrai plaisir aussi à inscrire quelque chose, mais aussi de manière éphémère. Donc c'est vraiment très amusant.
C'est un peu cher, disons-le. Elle coûte 100 euros, mais on peut l'offrir à plusieurs enfants, notamment quand on
ça peut être un petit cadeau partagé pour la famille. C'est intéressant aussi d'avoir un cadeau qui soit pas que privé.
Et je crois qu'il y a derrière une initiative solidaire.
Tout à fait. Ils offrent des tables à colorier, ces coloritables, dans des unités pédiatriques, au bout d'un certain nombre de tables vendues. Et c'est une petite start-up de Lille. Donc, c'est assez sympa d'encourager un produit français et une initiative de jeunes qui s'adresse à des plus jeunes qu'eux.
Ça s'appelle Coloritable. Et là encore, on retrouvera la référence sur le site de France Inter, page de Barbatruc. Je remets la main dans la hotte et je trouve un bon pour. Ça, c'est une idée d'Agnès Mathieu Daudet. Vous êtes une férue des bons pour.
Non, alors, au départ, le bon pour, moi, c'est quelque chose que je déteste, parce qu'on m'en offre tout le temps, quand on n'a pas eu le temps de faire un cadeau de fête des mères, de Noël, d'anniversaire. Et évidemment, quand je veux les utiliser, c'est jamais le bon moment. Donc, je me suis dit, il faut partir de ça, c'est-à-dire que moi aussi, parfois, j'ai des urgences, j'ai pas de cadeau, il faut trouver un bon. Alors, à Noël, ne ferait pas que un bon, parce que là, c'est l'assassinat garanti.
Ça manque de volume.
Mais un bon... pas pour bon pour un petit déjeuner ou mais des bons pour des trucs qu'on n'a vraiment pas envie de laisser son enfant faire. c'est-à-dire bon pour manger du McDo dans son lit en regardant Netflix. Il faut que ce soit vraiment extraordinaire.
Un truc super interdit, quoi.
Et en fait, il faut qu'il y ait quelques petites négociations sur à quel moment on donne le bon. Enfin, c'est-à-dire que si c'est tout à l'heure, je veux un McDo dans mon lit alors qu'il y a toute la famille qui vient dîner. Non, vous gardez ça en tête et vous dites, ah tiens, c'est pas le moment d'utiliser ton bon. Je fais n'importe quoi dans mon lit et ça marche.
Vous l'avez testé?
24 heures dans la chambre. Moi, je trouvais ça affreux, mais en fait, c'est avec un ado, ça marche. Un ado.
Vous avez
adore
testé,
passer
ça
24 heures dans sa chambre sans sortir, on lui apporte à manger. c'est un peu déprimant pour l'adulte, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc oui, j'ai testé.
Offrir à Noël 24
j'ai
heures
testé
dans ta chambre.
À contre-cœur, c'est des idées qui circulent, voilà. Mais ça marche.
Alors, comment on fait un bon Delphine Solière?
Eh bien, une idée que je trouvais hyper marrante du magazine Astrapi, vous faites un bon, simplement pour le rendre un petit peu plus mystérieux, vous le transformez en ticket à gratter et vous le recouvrez tout simplement de petites peintures métalliques et qui se gomment très bien avec l'ongle. Donc voilà, comme si on gagnait comme une deuxième valeur supplémentaire au bon.
Sylvain Patieu, retour au rayon jeunesse de la librairie. Vous vouliez nous conseiller les albums d'Ilia Green et notamment Strong Boy chez Didier Jeunesse, un ouvrage délicieux.
Oui, c'est une série, en fait, bon, tous ces albums, je les conseille, hein, mais il y a celui-là qui j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une série avec plusieurs personnages. Alors, il y a des personnages humains et des personnages animaux, il y a un chat, il y a des fourmis, il y a un oiseau, et puis il y a trois petites filles et un petit garçon, et ils ont pas le même âge. Et voilà, Strong Boy, bah, il y a une des petites filles qui a un t-shirt avec marqué Strong Boy, et elle dit que c'est un t-shirt de pouvoir. Et donc, avec ce t-shirt, elle peut donner des ordres à tous les autres. Elle peut elle leur donne aux fourmis de creuser une piscine, elle leur donne aux autres d'aller lui chercher tel ou tel objet. Tout ça tombe à l'eau quand les enfants se rendent compte qu'en fait, pour avoir ce t-shirt Strong Boy, il suffit d'aller acheter une glace au marchand de glace et que c'est un cadeau promotionnel. Donc, ils reviennent tous avec un t-shirt Strong Boy, tout le monde commande, plus personne n'obéit. Et donc, c'est le bazar total.
Et pas d'adulte, hein, c'est pas un détail.
Voilà, y a aucun adulte dans cette petite série. Alors, il y en a un qui s'appelle La dictature des petites couettes. J'adore le titre où ils discutent de ce que c'est que d'être beau ou pas. C'est des mots qui sont assez simples, qui sont utilisés par Ilia Green. Des dessins qui sont très beaux, j'aime beaucoup ces dessins.
Pour quel âge?
Je dirais à partir de 4 ans si on les lit, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans quand on sait lire, parce que c'est des petites histoires qui sont simples, mais qui montrent les petits rapports de pouvoir qu'il peut y avoir entre les enfants, la petite cruauté qu'il peut y avoir. Ça participe aussi à essayer de changer un peu les normes sociales. Là, voilà l'idée de pourquoi est-ce qu'il y en a un qui doit commander? Pourquoi est-ce que ça serait forcément les filles qui auraient des petites couettes et les filles qui seraient belles? C'est dans la dictature des petites couettes. Et elle fait ça de manière très subtile. C'est pas du tout didactique la manière dont elle le fait. C'est assez poétique et assez subtil, en fait.
La dictature des petites couettes et Strong Boy d'Ilia Green, écrivaine française aux éditions Didier Jeunesse. Là encore, les références sur notre site. Très beau bouquin aussi. Beaucoup plus gros, celui-ci, conseillé par Delphine Solière. La fantastique aventure des montagnes gelées. C'est un livre dont on est le héros, Delphine.
C'est un livre dont on est le héros. C'est un livre à lire, c'est un livre à jouer. On peut avancer dans l'aventure et un petit peu comme Tintin au Tibet, essayer de s'en sortir d'une situation vraiment inextricable.
Comparaison très juste parce que c'est de la ligne claire. Hein.
Tout à fait.
L'hommage à Tintin est assez clair.
Et en même temps, vous avez tout un tas d'infos sur la vie dans les montagnes, ça se passe dans les Alpes. Et je pense que c'est un livre qu'on peut lire, relire. On peut le regarder avec différents regards, qu'on soit enfant ou adulte, et surtout on peut y jouer.
Il y a une boussole incrustée dans la couverture, voilà, on l'ouvre et on joue avec. Et tout le jeu se fait en fonction de la direction de la boussole, qui est comme un petit peu comme un dé, quoi. C'est elle qui va décider de la suite de l'aventure.
Exactement, et donc selon l'orientation, on se retrouve au fin fond de la vallée, ou alors coincé en haut d'un évé. Donc non, c'est franchement un joli livre.
Ça coûte 22 €, édition de La Martinière, La fantastique aventure des montagnes gelées. Est-ce que vous voulez ajouter l'un et l'autre un dernier petit cadeau dans notre vaste hôte, Barbatruc, Agnès Mathieu Daudet?
Moi, je suis obsédée par offrir des choses, je sais que les tout petits aiment bien faire comme les grands, mais en fait, je trouve que c'est super de donner vraiment des choses de grands. C'est-à-dire qu'on a été envahis ces dernières années par des choses avec beaucoup d'emballages plastiques qui font le petit, je parlais du microscope qui, moi, je trouve un cadeau absolument génial. Un petit microscope en plastique, c'est beaucoup de plastique et très peu de lentilles. Et en fait, on peut très bien acheter un microscope d'étudiant, par exemple, solide. Et alors
même
là, en période de confinement, le microscope, c'est un cadeau absolument génial. Il y a plein de tutos pour apprendre comment regarder une pelure d'oignon et des choses vraiment très simples. Et je trouve que ça marche pour tout. C'est-à-dire, vous avez parlé d'un petit marteau. Oui, offrir de quoi faire un petit circuit électrique, un peu de bricolage, des accessoires pour la cuisine, mais offrir un vrai, par exemple, une vraie spatule, un vrai rouleau. Enfin, ça paraît pas des trucs pour enfants qui sont surtout du packaging et du...
Des vrais trucs de grand.
Voilà, et qui durent qu'un an. Alors qu'un truc de grand, le premier marteau, vous le gardez toute votre vie. Moi, je plante encore mes clous avec. C'est vraiment... Bon, faut faire attention quand on offre un marteau le jour de Noël. Mais,
bon, on va faire un niveau à bulle une fois à Noël, quand j'étais petite. Ça m'a
niveau,
fait beaucoup d'effet.
C'est génial. Un mètre. Et c'est pas des cadeaux qui coûtent très cher. Et voilà, plus c'est vrai. Même moi, on m'a offert une balayette quand j'étais enfant. Je rêvais d'une balayette et d'une pelle. Moi, j'étais très...
Donc ça existe au rayon jouet, mais autant offrir un vrai, quoi. Voilà. C'est beaucoup moins cher et puis ça marche
ça,
bien.
Ça, c'est mon conseil.
Qu'est-ce qu'un cadeau contraste, Agnès Mathieu Daudet?
C'est d'offrir le plus grand livre du monde de Richard Scarry, que j'adore, qui est vraiment un livre immense, avec les toutes petites bibliothèques, la mini-bibliothèque de Maurice Sendak. C'est ça pour moi, un cadeau contraste.
Et aussi un très grand cadeau à quelqu'un de tout petit, un tout petit cadeau à quelqu'un de très grand.
Non, on a entendu tout à l'heure, les enfants petits, la taille compte, hein, ils aiment vraiment les gros cadeaux. Alors si on fait un petit cadeau, c'est bien de lui mettre une grande boîte, par exemple.
Allez, on retrouve à présent Denis Chessou. Vous restez avec nous tous les trois, bien sûr. Je vous retrouve dans un instant. Dans l'actualité du livre pour enfants vu par Denis cette semaine, il y a Daniel Pénac et Florence Sestac réunis pour un bouquin hilarant, mais aussi Le Petit Poucet.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Oui, on va revisiter nos classiques avec Le Petit Poucet de Agnès Le Digue et Frédéric Pillot aux éditions Père Castor à partir de 6 ans.
Dans une forêt sombre de sapins et de chênes, on voit passer une ombre, celle d'un homme en peine.
C'est un bûcheron qui ne lésine pas sur les efforts pour nourrir sa famille.
Son épouse fertile lui donna en 5 ans 7 enfants bien dociles, des garçons seulement. 3 paires de jumeaux et un petit dernier qui ne dit jamais mot mais pense le premier.
La misère est là et le couple ne peut se résigner à voir leurs enfants mourir sous leurs yeux.
Le choix de s'en débarrasser fut fait.
Alors la mère poussa des cris, mais ce ne fut pas assez.
Ils iraient en forêt au prochain crépuscule en comptant à regret sur les loups qui pullulent.
Mais le plus jeune des frères, ayant surpris la conversation de ses parents, réfléchit toute la nuit au stratagème qui va les sauver.
La forêt est immense et les branches si denses qu'on est vite perdu. Mais le petit poucet dépose derrière lui les cailloux qu'il avait dans une poche à l'abri.
De retour chez lui, le bûcheron n'est pas fier de ce qu'il vient de faire et se désespère de ne pas avoir su prendre soin de ses enfants.
D'autant que le Seigneur, qui nous devait depuis fort longtemps 10 écus, nous a réglé sa facture juste à notre retour. Nous avons acheté de la viande et du blé, de quoi passer l'hiver, le ventre apaisé.
Mais surprise des parents, malheureux de découvrir leurs enfants sur le seuil de la porte, guidés à travers la forêt grâce aux cailloux semés par le petit dernier.
La famille réunie ne le fut pas longtemps, car les économies fondirent.
Le bûcheron et son épouse prennent la même cruelle décision, mais en retirant le stratagème du petit pousset.
Cette fois, prenant de la hauteur, l'enfant à l'horizon aperçoit la lueur d'une petite maison.
Arrivé sur son seuil, il se rend compte qu'elle n'est pas la leur, mais celle d'une ogresse et de son mari.
Nous préférons risquer d'être mangés par un ogre que dévorés par les loups.
Bon, alors, la fin, c'est plutôt pas mal, et avec un petit répit, ça permettra au petit pousset de se sauver, lui et ses frères.
Et de regagner la maison tout en sortant de la misère.
Alors, Agnès Le Digue et Frédéric Pillot est un duo qui est habitué aux collaborations. On revisite Le Petit Pousset, donc ce conte cruel sur l'abandon qui met en valeur la différence, le courage, l'ingéniosité de son héros qui surmonte ses peurs. C'est un texte, on l'a compris, qui alterne de la prose et une poésie assez réconfortante. Et Agnès Le Digue raconte aussi les pensées de certains protagonistes dans des passages qui sont, on peut dire, introspectifs et qui donnent encore plus de densité émotionnelle à l'histoire.
Un livre grand format, Denis.
Un vrai terrain de jeu pour les peintures de Frédéric Pillot où l'inquiétude de la taille des arbres et de l'ogre est contrebalancée par de vastes scènes lumineuses et chaleureuses. C'est donc une adaptation qui sera sûrement une grande et belle chose. Le Petit Poucet, Agnès Le Digue, Frédéric Pillot, éditions Père Castor à partir de 6 ans. Les mots ont des oreilles aux éditions Le Robert, c'est pour les 7-11 ans. Entrez directement dans la descendance de la famille Malocène avec Anna, Litsou, Lul, Morello, Tante Mogne, et même le petit Robert qui vous attendent dans ces pages écrites par Daniel Pénac et trognées par Florence Sestac. Alors je dis bien trognées, oui, c'est sa signature. Des bouilles expressives en mouvement et aux âmes bien nées, Sestac n'est jamais avare de gros nez.
Et de quoi sont-ils coupables?
Disons-le, de fondre en larmes, de ne pas avoir froid aux yeux, d'avoir un poil dans la main,
de ne pas mâcher leurs mots,
d'avoir les chevilles qui enflent,
de se faire des cheveux blancs, de se faire un sang d'ambre.
Bref, d'interpeller notre corps pour en faire sortir une quarantaine d'expressions à hauteur d'enfant, alors prétexte à de joyeuses scénettes.
À propos de mots et d'images, l'autre soir, Tante Mogne a mis les pieds dans le plat. Et c'était bien dommage parce que Morello et Anna nous avaient fait un bon couscous.
Alors pourquoi n'avez-vous pas d'index à la main droite, colonel Balthazar ?
Eh bien parce qu'un jour, moi qui réponds juste à toutes les questions, je me suis trompé. Je me suis mis le doigt dans l'œil, si profond que je n'ai jamais pu le récupérer.
Ah oui, c'était quoi la question ?
Quelqu'un avait demandé au colonel s'il n'y aurait plus jamais de guerre. Jamais !
Eh oui, il n'est pas prêt de retrouver son doigt, a conclu Pépère. Alors, façon efficace et souriante d'aborder la différence entre le langage propre,
quand les mots ne disent que ce qu'ils disent,
et le langage figuré,
quand on emploie des images pour en parler.
Entre le regard du petit Nicolas et celui de Douaneau, il y a celui de Pénac, qui a toujours sur lui la carte du parti des enfants. Donc un livre qui n'a pas froid aux yeux, pour nous clouer le bec, et qui vaut le coup d'y jeter un œil, même à l'aide d'une petite cuillère. Les mots ont des oreilles, Pénac et Sestac, aux éditions Le Robert, c'est pour les 7-11 ans. Merci à Christophe Imbert pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. On vous souhaite de belles lectures, une bonne fin d'émission, Dorothée.
Merci beaucoup, Denis. Nous approchons de la fin de Barbatruc. Sylvain Patieu, Agnès Mathieu Daudet et Delphine Solière, les trois lutins du Père Noël, nous ont donné plein d'idées de cadeaux. Toutes les infos sur vos précieux conseils seront bien sûr soigneusement répertoriées par Margot Page à la page de l'émission. Et j'ai à présent une dernière question à vous poser, question rituelle. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Agnès Mathieu Daudet.
J'avais des tas de réponses poétiques, mais en fait, celle qui s'impose, c'est le vieux doudou qui pue et que j'ai traîné jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à ce qu'on me mette une grille dans la bouche pour que j'arrête de sucer mon pouce et de trimballer ce doudou.
Et qu'est-il devenu ?
Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé des morceaux parce qu'il y a eu plusieurs doudous il y a plusieurs générations. Et en fait, non, j'aime bien cette idée parce que un doudou, je crois que c'est la seule odeur qu'on ne peut pas reproduire. Et on peut jamais retrouver l'odeur de son doudou d'enfance. Donc je reste sur cette réponse.
Delphine Solière, quelle est l'odeur de votre enfance?
C'est l'odeur du parfum L'Heure Bleue de Guerlain. Ça fait un peu chic de dire ça, mais c'était un parfum qui avait été donné à ma maman et qu'il a mis la veille où elle est partie accoucher d'une de mes petites sœurs. Et j'ai le souvenir encore extrêmement fort de cette odeur que j'allais respirer le flacon en espérant qu'elle revienne très vite et je savais pas trop avec qui ou avec quoi.
Et la jalousie était sur le point de s'exprimer très très fort. Sylvain Patieu, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors là, ça va être une odeur de sous-bois parce qu'on allait dans la forêt ramasser de la mousse. On n'était pas religieux, mais on aimait bien la tradition de faire la crèche à Noël. Mmh. Donc on ramassait de la mousse pour mettre les 100 ans dessus, tout ça. Et puis peut-être aussi l'odeur de mon petit frère bébé, l'odeur de bébé quand il est arrivé. Je sais pas, l'odeur de bébé, c'est une odeur un peu bizarre. Et voilà, c'était émouvant d'avoir cette odeur-là.
Elles sont très jolies, les odeurs de la semaine. Hein. Le sous-bois, le cou d'un bébé, le parfum d'une maman et le vieux doudou qui pue. Merci beaucoup à tous les trois. On met ces odeurs sous cloche et on confectionne le parfum de l'enfance au fil des semaines. Delphine Solière, vous voulez nous conseiller un magazine en particulier parmi vos titres chez Bayard Jeunesse ?
Ah, tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de vous conseiller « J'aime lire ». C'est le magazine le plus lu par des enfants en France. Voilà, on se donne beaucoup de mal pour emballer des petits lecteurs qui n'aiment pas d'ailleurs forcément lire. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'appelle J'aime lire. C'est pour s'adresser aux enfants qui auraient peut-être pas forcément envie de lire.
C'est la méthode Coué, ça s'appelle. Tout pour la musique à la une de J'aime lire du mois de janvier qui sera en kiosque dans quelques jours.
Dans quelques jours.
Et je rappelle les titres de vos derniers romans. Agnès Mathieu Daudet, Londinium à l'école des loisirs, à partir de 13 ans, savoureuse enquête dans un monde étrange où cohabitent les animaux et les humains. Le tome 1, c'est Un lapin sous le dôme. À l'école des loisirs également, les deux premiers tomes de la saga de Sylvain Patieu, Amour Chrome et Terrain Frère. Amour Chrome, roman qui a remporté, je le rappelle, le prix vendredi. Grand merci à vous trois.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Joyeux Noël et à bientôt sur France Inter.
Au revoir, Dorothée.